Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. À l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose une courte série de 3 épisodes. En 2021, voici le message du sida au monde. Du passé, du présent, du futur, je suis passé pour être présent dans ton futur. À travers ces mots, l'association AIDE souhaite continuer à réveiller les consciences et rappeler que plus que jamais, le sida ne se conjugue pas au passé, mais bien au présent et malheureusement au futur. Dans cette série inédite, vous allez découvrir des hommes différents au micro de On the Verge. Tim incarne le passé, Jérémy le présent et Guéric le futur. Je tenais à remercier en premier lieu Pierre Battista qui a organisé ces rencontres et le spot du boulevard Beaumarchais pour son accueil. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Salut Jérémy.
Salut.
Merci de me recevoir. Nous sommes à l'hôpital Saint-Louis où tu travailles. Donc Jérémy, tu vas te présenter en quelques mots. Qui es-tu ?
Je suis Jérémy Zegag. Comme tu viens de le dire, je suis médecin, je suis infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et je suis spécialisé dans la prise en charge des patients séropositifs, les hépatites virales et aussi les infections sexuellement transmissibles.
L'hôpital Saint-Louis est particulièrement reconnu pour ça ?
Oui, ça fait depuis, je pense, dès l'arrivée de l'épidémie dans les années 80, que l'hôpital Saint-Louis, avec d'autres grands hôpitaux de la PHP, s'est vraiment positionné. Depuis plus de 30 ans, on reçoit des patients VIH et notamment des patients immunodéprimés, donc c'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui est bas à cause de l'infection par le VIH.
Vous êtes combien à travailler dans ce service ?
Entre les médecins, les personnes qui font de la recherche, on a un grand centre de recherche clinique. Je pense qu'on doit être une soixantaine de personnes.
Ok. Ça fait longtemps que tu t'es spécialisé
Moi, ça va faire maintenant 4 ans. Donc, j'ai fini mon internat et je me suis spécialisé en maladies infectieuses. Et donc, ça va faire 4 ans, même 5 ans que je fais que ça.
Ok. Jérémy, c'est quoi ton tout premier souvenir lié au VIH ? Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la toute première fois ?
Alors, moi, mon tout premier souvenir, il n'est pas à l'hôpital, parce qu'avant d'être médecin, je suis quand même un homme et je suis un homme gay. Donc, quand j'avais 12-13 ans, je faisais des recherches sur Internet. Et malheureusement, quand on tapait gay, c'était quand même souvent associé dans les années 90 au VIH. Donc, ça a été peut-être ça, mon premier. Voilà, j'ai vu sur Internet, le seul ordinateur de la maison, des images de VIH, voilà, de patients séropositifs. Et je pense que c'est ça qui m'a motivé à... plus tard à me spécialiser en maladies infectieuses et particulièrement pour le VIH parce que ça touchait une population dont j'étais éminemment proche. Mais sinon, la première fois, vraiment mon premier contact avec le VIH, c'était à l'hôpital avec quand j'étais externe. Donc externe, c'est au cours des études de médecine où j'ai pris en charge des patients et des patientes notamment. Et je me rappelle très bien d'une patiente qui arrivait d'Afrique subsaharienne et qui avait une infection très grave avec un stade sida très évolué et une patiente qui est malheureusement décédée dans le service. Et donc ça, c'est eu un impact même 10 ans plus tard. Je me rappelle toujours de cette patiente. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment... voilà, évidemment, le sida, entre les années 80, 2000 et 2010, a bien, Dieu merci, bien changé. Mais je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait encore du travail. Il faut vraiment que je me spécialise dans ça.
Ok, tu peux peut-être, en tant que médecin, expliquer la différence entre le VIH, le sida, les stades. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup, moins parler maintenant. On en parlait juste avant d'ouvrir les micros. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des années où les campagnes médias étaient quand même plus importantes, aujourd'hui un peu moins. Mais est-ce que tu peux nous donner la subtilité entre un malade du sida, une personne porteuse du VIH, etc.
Ouais, c'est une excellente question. On a encore... Beaucoup de personnes qui viennent nous voir et n'ont pas la réponse. En fait, c'est très très simple. En fait, on s'infecte avec un virus. Donc, on s'infecte avec le virus du VIH. Le sida, en fait, ça correspond à un stade assez tardif de la maladie, où le système immunitaire, donc comme vous le savez, le VIH touche le système immunitaire, les lymphocytes, et particulièrement les lymphocytes qu'on appelle les CD4. Et quand ce taux de lymphocytes CD4 devient bas, et qu'on attrape donc des infections opportunistes, et ben qu'on classe en stade sida. Donc en fait, le sida, c'est une classe de la maladie, et heureusement, toutes les personnes aujourd'hui qui sont séropositives n'ont pas le sida. Donc vraiment, quand j'ai un patient qui vient me voir et qui dit « je viens d'avoir le... j'ai peur d'attraper le sida » ou alors « je viens d'avoir le sida », genre je l'explique bien, non, on parle de VIH et c'est important de bien faire le distinguo entre les deux.
On sait aujourd'hui en France le nombre de personnes qui ont le sida.
Alors je crois qu'il y a 150 000 personnes qui ont le VIH, c'est le sida, je n'ai pas les chiffres. Mais là aujourd'hui par exemple, on a très peu de personnes qu'on diagnostique avec le stade sida. En France, en moyenne, ça c'est un chiffre que j'ai, le moment entre l'infection et la découverte, il y a encore 3 ans. Donc c'est encore trop long, donc il se passe 3 ans. Et on a, je crois, 15-20% des gens qu'on trouve à un stade évolué de la maladie. Donc à moins de, parfois, 200 CD4. Donc c'est le stade un peu limite. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accentuer le dépistage. Une infection VIH diagnostiquée à un stade précoce, on va en reparler, mais c'est quelque chose... Enfin, aujourd'hui, il faut savoir que l'espérance de vie est la même, tout va très bien pour quelqu'un qui est diagnostiqué précocement. Le problème, c'est quand on les diagnostique trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut régulièrement se faire dépister.
Ok, quand on a les pratiques à risque, c'est pas important.
Alors, pratiques à risque, là aussi, c'est un terme que j'aime pas trop, risque, parce qu'en fait, être homosexuel, ça veut dire c'est être à risque. Alors
je n'allais pas juste... dire forcément homosexuel, non, hétéro aussi.
Non,
hein.
Mais par exemple, c'est assez compliqué d'évaluer le risque, en fait, parce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai des pratiques à risque ou est-ce que j'ai pas de pratiques à risque? Je pense que tout le monde, évidemment, doit se faire dépister régulièrement. Et il y a des populations, on le sait, qui sont plus exposées. Voilà. Typiquement, bah, les homosexuels, les personnes nées à l'étranger, les personnes travailleuses du sexe, les personnes qui prennent des produits intraveineux. On sait qu'eux, ils sont particulièrement exposés. Mais...
S'ils ne prennent pas de précautions.
C'est-à-dire mettre un préservatif,
ouais.
Par exemple. Ouais, s'ils ne mettent pas de préservatif. Mais même s'ils mettent un préservatif, je pense que le dépistage doit leur être proposé très régulièrement.
Pour toi, ça devrait rentrer dans sa vie sexuelle. Dès que tu as la vie sexuelle active, il faut rentrer dans une dynamique de dépistage.
Exactement.
Tous les ans.
Alors en fait, là...
Comme un frottis.
Ouais. En fait, ça a été... Et on a pas mal de groupes de recherche sur ça. En fonction des populations, quel type de dépistage il faut avoir et quelle est la fréquence. Aujourd'hui, ça a été assez bien recommandé. Par exemple, quand on a un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes, qu'on soit gay ou pas gay d'ailleurs.
Bien sûr.
On doit bénéficier d'un dépistage du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles tous les 3 mois. Ok. Ça a été clair, ça a montré l'efficacité. Si on est une femme hétérosexuelle, en couple, on va dire plus ou moins, voilà, avec un partenaire et parfois un peu des à côté, et ben un dépistage une fois par an est suffisant.
Ok, très clair. Aujourd'hui, comment toi tu prends en charge un jeune qui est testé positif au VIH, qui arrive, on fait un test, il se trouve que le résultat est vous êtes séropositif. Toi, tu prends en charge le patient à ce moment-là?
Ouais, exactement.
Et comment l'échange déjà qui doit être particulier parce que j'imagine dans une, enfin, je pense à cette patiente qui doit être dans une vulnérabilité totale et qui doit se poser 1000 questions.
Alors moi, j'arrive jamais en premier lieu. C'est-à-dire que souvent, ce qui s'est passé, c'est il a vu son médecin traitant, il a demandé un test de dépistage, ou alors il est allé dans un centre associatif, il a fait un dépistage par le doigt, par exemple, avec un centre, par exemple, à Paris qui s'appelle le Checkpoint. Et c'est à ce moment-là qu'il nous envoie et donc qu'il m'envoie les patients. Donc moi, l'annonce a déjà été faite. C'est assez exceptionnel que moi, je fasse l'annonce diagnostique. Bon, alors le problème, c'est qu'entre-temps, il est allé sur Internet et donc il a vu tout et son contraire. Donc il arrive souvent... Il ou elle arrive un peu genre, ma vie va s'écrouler. Et donc là, déjà, la première chose, c'est que je prends mon temps. J'essaye de mettre mon ordinateur de côté, d'essayer de lui parler, d'essayer de le rassurer premièrement. Très, très souvent, enfin, ils ont les mêmes questions. Ça va être l'espérance de vie. Voilà. Ça va être, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants et est-ce que je vais pouvoir contaminer ou avoir une relation ou est-ce que je vais avoir une vie normale. Et donc, en fait, très rapidement, je leur explique qu'on va les mettre sous traitement très rapidement. Ils vont avoir une espérance de vie équivalente, voire même peut-être supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va les suivre toute notre vie, tous les 6 mois, on va les voir. Donc, s'ils ont du diabète, du cholestérol...
Oui, tu vas voir les petits à côté qu'on voilà. Ne fait pas attention.
Exactement, en fait, voilà. Il y a quelque chose de fantastique, voilà, que les gens commencent à connaître aujourd'hui, qui est l'indétectabilité. On sait qu'aujourd'hui, un patient qui prend son traitement correctement et qui a une charge virale du VIH qui est indétectable, eh ben, il ne transmet pas à son partenaire. Et donc, on va lui dire, bah, vous pouvez aller un jour avoir un partenaire ou une partenaire, avoir des rapports sexuels sans préservatif et ne pas le contaminer ou la contaminer, avoir des enfants sans problème. Donc déjà, toutes ces petites questions, ouais. J'essaie de les...
Donc, tu remets les curseurs de l'espoir et surtout tu réponds à ces questions légitimes, hein, mais en tout cas, tu essaies de leur apporter un peu de positif. Quoi, voilà.
Et après, il y a d'autres questions. Et après, il y a d'autres types de patients que je n'avais pas il y a 2-3 ans, mais que je commence à voir. C'est le patient super informé. Alors ça, c'est un peu nouveau, on va dire. C'est qu'il est assez au courant de tout ça et donc il arrive avec une certaine forme de tranquillité en disant bon bah voilà, j'ai le VIH, c'est bon bah c'est pas la fin du monde, aujourd'hui on vit très bien avec le VIH, j'ai des copains qui sont séropos, ils vont super bien, ils prennent un comprimé par jour et donc je suis pas du tout stressé, voilà. Donc c'est plutôt cool.
Alors parfois ça, psychologie,
voilà, après parfois ça cache parfois aussi, voilà,
oui. Un déni, une forme de déni,
une forme de déni, mais on est face à des patients, voilà, notamment les patients urbains, blancs, j'aime pas ce terme, mais CSP+, qui, voilà.
Oui, qui ont la possibilité de mieux s'informer ou en tout cas qui ont accès à ces informations. Voilà. Ok, je comprends. On parlait donc un comprimé comme traitement. Est-ce que tu peux succinctement, hein, je sais que c'est compliqué de résumer ça, mais Tim, un peu plus tôt, parlait, lui, de l'AZT qu'il a commencé dans les années 90. Est-ce que tu peux rappeler un peu les protocoles médicamenteux qu'il y a eu
Yes, bah, il y a eu en effet d'abord rien.
Oui, bien sûr.
Ensuite, il y a eu l'AZT, une période que moi-même, je n'ai pas du tout connue.
C'était l'injection ou de la prise de médicaments ?
Des médicaments.
Des médicaments, tout. Dans la bouche, ouais.
Ensuite, il y avait une injection, c'était un médicament qu'on appelait le Fuséon, qui était assez fantastique au début, mais qu'on a arrêté. Non, surtout la révolution après, c'était l'arrivée des trithérapies. Je pense que Tim a dû en parler dans son dans l'interview avant. Ça, c'était 96. Et puis après, c'était des dizaines de médicaments. Je pense que tout le monde a un peu à ça en tête. Et il y avait une espèce de Saint Graal, c'était l'arrivée du comprimé unique. Et donc, en fait, il y a eu un moment, on a eu un comprimé unique.
Donc,
par
c'est
jour,
toutes les molécules toutes dans les molécules. Un comprimé.
Et donc, c'est cette trithérapie. On restait dans des trithérapies, okay. Donc 3 molécules dans un comprimé unique.
D'accord.
À prendre tous les jours. Donc, ça, c'était assez fantastique. Et puis après, finalement, et donc là, c'est un peu aussi la recherche, et c'est est-ce qu'on se pose la question de, est-ce qu'on a besoin de prendre des comprimés tous les jours? Et est-ce qu'on a besoin de prendre des trithérapies? Et donc là, il y en a pas mal de protocoles de recherche qui ont montré que, qui sont assez récents d'ailleurs, qui viennent d'être sortis, notamment un protocole qui s'appelle Quatuor, qui a montré qu'en fait, finalement, prendre des comprimés pas tous les jours, ça marche aussi.
Okay.
Ça, c'est très français, mais donc des trithérapies pas tous les jours, ça marche aussi. Aujourd'hui, un nouveau médicament, c'est des bithérapies. Donc on donne aussi que 2 molécules. Donc en fait, on se rend compte qu'à long terme, en fait, d'avoir moins de médicaments, et ben, c'est probablement moins toxique pour le corps. Donc là, aujourd'hui, on propose des bithérapies. Mm-hmm. On est même encore actuellement là dans le service, on a un protocole de recherche sur la bithérapie, pas tous les jours.
Ok.
Donc voilà, donc là c'est vraiment, on a de moins en moins de traitements. Mais moi je pense, je suis pas sûr que le futur du traitement ce soit ça. Moi je mise beaucoup sur ce qu'on appelle le long acting, qui est donc des comprimés ou des injections, qui ont des durées de vie, c'est-à-dire une diffusion très 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 lente du médicament dans le corps. Et par exemple, là on est en train d'essayer un médicament en un comprimé par mois, ou alors des injections intramusculaires ou sous-cutanées tous les 2 mois, par exemple.
D'accord, donc c'est-à-dire que c'est une molécule qui va se diffuser... Alors, pardon pour le parallèle, hein, je te parle de ce que je connais, mais un peu comme les implants hormonaux, des choses comme
c'est
ça.
Exactement.
Où ça diffuse, d'accord.
Et c'est exactement ça, tu as tout compris. En fait, on va d'ailleurs travailler sur une molécule, le nom qui est déjà maintenant connu, qui s'appelle l'islatravir, qui est une molécule qu'on va pouvoir donner en implant. Et donc, c'est une injection d'implant. Et on va le donner aussi bien en traitement thérapeutique pour les personnes qui ont le virus du VIH, mais on va aussi bientôt la proposer pour les personnes qui n'ont pas le virus du VIH, et donc en traitement préventif du virus du VIH, qui pourrait protéger les personnes contre l'infection par le VIH.
Tu me fais une transition de qualité, Jérémy. Je voulais te demander aussi qu'est-ce que c'était la PrEP. Parce que moi, j'ai eu à ces micros-là des hommes, très souvent, d'ailleurs, quasiment tous homo, quand justement, alors on va dire, ils ont envie de faire la fête et ils vont se mettre dans ce qu'on appellera des pratiques à risque, même si on dit que ce ne sera pas des pratiques à risque, mais en tout cas, ils s'exposent un peu plus.
Bien sûr.
Ils prennent la PrEP.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que la PrEP ?
Bah, là, tu es dans le temple de la PrEP, hein, donc t'as la chance.
Waouh !
C'est ici, c'est en 2000.
Il y a beaucoup de monsieur musclé à moitié à poil sur tes affiches.
Bah, exactement, ouais, c'est pour motiver les patients à prendre la PrEP, ouais, ici.
Ok, ça me...
Et en fait,
ça doit
en
marcher.
Gros, en 2012, alors, il y a eu une première étude aux États-Unis. Donc, c'est un médicament préventif qui s'adresse aux personnes qui sont séronégatives.
Ok.
Ok. Pour les empêcher d'avoir le virus du VIH. Et en gros, c'est des antirétroviraux. Donc, c'est les médicaments qu'on donne chez nos patients séropositifs. Mais en fait, on les donne en préventif avant et après les rapports sexuels. Et en fait,
d'accord,
on s'est rendu compte que les gens ne s'infectaient pas. Et donc là, aujourd'hui, on a des études très solides avec en vie réelle. Et en fait, l'efficacité de la PrEP, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est de l'ordre de 99,9%. Ah oui. Donc quand vous voyez aujourd'hui l'efficacité des vaccins, quel que soit le virus, ça va être très compliqué aujourd'hui pour la recherche vaccinale du VIH de trouver un vaccin aussi efficace que la PrEP. La PrEP, quand elle est prise correctement, ça marche. Enfin, on ne s'infecte pas.
Okay.
Et donc, à qui ça s'adresse? Et donc là aussi, je suis bien positionné parce que donc on est en train de réécrire les recommandations. Aujourd'hui, c'était les personnes très à risque, donc fallait avoir des infections sexuellement transmissibles, prendre des drogues intraveineuses. C'était
un cahier des charges un peu complet.
Hyper compliqué. Et là, on a décidé d'arrêter avec ces critères d'inclusion, d'exclusion. Et donc aujourd'hui, on a élargi les recommandations de la PrEP. Et en fait, déjà la PrEP, ça doit être un médicament qui doit être proposé à toute personne qui est sexuellement active. Déjà, il faut que les gens soient au courant que ça existe comme le préservatif. Mm-hmm. Et donc, on a pris une approche un peu, on va dire, populationnelle. C'est-à-dire, je suis un homme avec des rapports sexuels avec des hommes. Je suis une femme, un homme d'origine africaine. Je prends des produits pendant les rapports sexuels, le fameux chemsex.
Ouais.
Ou alors, je suis un homme hétérosexuel, une femme hétérosexuelle, mais j'ai des partenaires multiples. Je ne mets pas forcément systématiquement les préservatifs. J'ai une infection sexuellement transmissible. Enfin, des choses qui montrent que je suis sexuellement actif, je peux avoir la PrEP.
D'accord. Et ce serait l'idéal, ce serait aller en pharmacie et demander la PrEP, quoi.
Ouais. Alors, ça nécessite un suivi. Et c'est très important d'être séronégatif sous PrEP parce que autant ça protège contre l'infection, mais le Truvada seul, c'est le médicament qu'on donne, ne permet pas de réduire suffisamment la charge virale. Donc, ça nécessite un suivi régulier avec un médecin. Ce qui est super, et c'est qu'aujourd'hui, les médecins généralistes peuvent prescrire la PrEP. Depuis quelques mois, c'est tout nouveau. Avant, il fallait être infectiologue à l'hôpital pour prescrire la PrEP.
Oui,
maintenant, c'était un peu compliqué.
Ouais,
tu viens de voir toi-même, tu étais venu à l'hôpital me voir et je
t'en remercie.
C'était compliqué. Là, aujourd'hui, vous allez chez votre médecin traitant. Vous dites, je veux la PrEP. Il va vous faire une sérologie VIH, un bilan rein et hépatite. Et il va pouvoir vous mettre sous PrEP dès qu'il a les résultats.
Et donc, tu le prends avant une folle soirée ou comment ça se passe? C'est sûr du moyen long terme?
Il y a deux manières de la prendre, en tout cas chez les hommes. C'est soit tu la prends tous les jours et puis tu ne te poses pas la question, mais c'est plutôt pour des personnes qui ont pas mal de rapports sexuels. Soit tu la prends avant et après les rapports sexuels. En gros, tu prends tes deux comprimés de PrEP et au bout de 2 heures, tu peux faire la fête.
Bonne fête, il faut rentabiliser. Ouais. Ok, très clair, merci. Toi qui vis ça de l'intérieur, comment vois-tu les choses évoluer depuis que tu as commencé effectivement tes études de médecine et jusqu'à maintenant? On en parlait un peu toujours avec Pierre. C'est vrai qu'on a le sentiment en tout cas qu'on communique moins sur le VIH. Toi, comment tu as vu sur, on va dire, une dizaine d'années maintenant que tu es dans la médecine et comment ça bouge?
C'est un peu une question difficile parce que moi, je suis tellement à l'intérieur que j'ai l'impression qu'on parle que de ça.
Je pense.
Mais je vois bien qu'en effet, c'est plus le cancer numéro un de la jeunesse. Et tu sais, je me dis que c'est pas plus mal que ça. Moi, je parle souvent d'un truc que j'avais entendu. C'était, je sais plus quel médecin qui parlait que le problème avec les jeunes, c'était qu'ils avaient plus peur pendant les rapports sexuels. Et moi, ça m'a toujours choqué cette phrase. Je dis, mais c'est fantastique de pas avoir peur pendant les rapports sexuels. Ça devrait être la base. Mm-mm. Ça veut dire, la base absolue, c'est de ne pas avoir peur pendant les rapports sexuels. Et donc, s'ils arrivent à plus penser à ça, c'est fantastique. Moi, un patient était venu me voir justement pour la PrEP. Il me disait, oui, j'ai plein de rapports sexuels dans tous les sens. J'ai besoin de PrEP. Je dis, je lui donne la PrEP. Et puis, je le revois un mois plus tard. Et puis là, je vois qu'il commence un petit peu à avoir les larmes aux yeux. Je dis, mais ça va, monsieur, un homme 60 ans, hyper chic. Il me dit, mais en fait... je vous ai menti, là j'ai fait mon baratin il y a un mois, j'ai pas de rapport sexuel. Ça fait même 30 ans que j'ai pas de rapport sexuel. J'ai perdu les deux hommes de ma vie à 3 ans d'intervalle par le VIH et depuis je n'arrive plus à avoir des rapports sexuels.
Waouh.
J'ai essayé, mais j'arrivais pas. Je reprenais la capote, je regardais s'il y avait pas de trou. Enfin, insupportable,
les mecs
se barraient.
Ah oui, parce qu'il est obsédé par ça.
Là, il a commencé par exemple la PrEP et il m'a dit, mais pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de penser au VIH, arrêter de penser à la maladie et j'ai pu avoir un rapport protégé par un préservatif mais avec cette PrEP qui était derrière moi et je me suis dit c'est fantastique quoi. Voilà, donc ça c'est quand même les choses fantastiques et je vois aujourd'hui des patients qui sont séronégatifs pouvoir avoir des rapports sexuels avec des séropositifs et de ne plus en avoir peur. Donc je pense que ça c'est quand même, je suis assez optimiste sur ça. la distinction séropo, séroneg, elle est en train de s'effacer. Alors, par plein de choses, l'indétectabilité, on en a parlé, la PrEP, on en a parlé, et par la connaissance des uns et des autres. Et donc, ça, c'est chouette. Sinon, sur la question du cure, est-ce qu'on va réussir un jour à se débarrasser du virus du VIH? C'est compliqué, hein, c'est beaucoup plus compliqué que le Covid. C'est un virus qui mute tout le temps, tout le temps. Il y a des dizaines et dizaines de VIH. Mais je pense que la recherche et l'argent qui a été mis sur le Covid va évidemment impacter la recherche sur le VIH. Et donc, je suis assez optimiste sur le futur.
C'est... Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Il ne faut pas diaboliser tout ça. Il faut parler d'espoir plus que d'un couperet qui tombe.
Ah ouais.
Mais plus être dans l'espoir. Et c'est, c'est extraordinaire de t'entendre parler comme ça. Parce que c'est vrai que ça, je trouve que ça amène c'est ça, une forme d'espoir et de jour meilleur sur le sujet. Ouais. Merci, Jérémy. Je voudrais te demander comment conclure cet entretien. C'est génial que tu aies apporté cet éclairage. En tant qu'homme, en tant que médecin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs et auditrices en cette journée mondiale de lutte contre le VIH?
Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros fardeau aujourd'hui des séropositifs, ce n'est pas la maladie, c'est juste avoir peur que d'être ostracisé, marginalisé par les gens qu'ils aiment. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de patients qui sont pourtant parfois parisiens, qui ont des amis homosexuels, qui ne parlent pas de leur maladie. Donc en fait, finalement, je pense que le vrai travail qu'on a à faire, mais que ce soit les médecins, les infirmiers, que ce soit toutes les personnes, c'est justement d'essayer de comprendre ce que c'est, de plus avoir peur des séropositifs, de plus les rejeter, et d'aller embrasser tous vos copains séropositifs, ceux que vous connaissez, ceux que vous connaissez pas. Mais en fait, en gros, je pense que le travail des prochaines années, c'est surtout cet aspect, je dirais, psychosocial. Alors, ça fait très médical de dire ça, un peu con, mais en fait, c'est essayer de ramener les séropositifs dans, en fait, je suis séropositif comme j'ai eu n'importe quel rhume, comme j'ai le diabète ou j'ai une maladie chronique. Je ne suis pas malade. Les patients, ils ne sont pas malades. Ils ont un virus dans leur corps. Ils prennent un médicament tous les jours. Et leur virus, il est vraiment inactif. Donc vraiment, essayer de rappeler qu'aujourd'hui, un séropositif, il vit bien. Il ne transmet pas la maladie. Il vit longtemps. Et ils sont beaux. Et ils ont des super boulots. Enfin, ils ont une vie qui est comme les autres. Voilà.
Merci infiniment, Jérémy.
Je t'en prie.
Merci infiniment à Jérémy pour son accueil, pour sa disponibilité. J'ai adoré rencontrer ce jeune médecin qui a vraiment une vision très intéressante et de vous la partager, j'ai trouvé ça super généreux. Merci infiniment à Pierre Battista encore une fois pour ces mises en relation uniques. J'espère que vous avez appris des choses et n'hésitez pas à venir m'en parler sur les plateformes sociales ou par mail. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. À très bientôt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.